Picrine en plateau, merci.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 6 avril 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct toujours des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, Radio FMR est en direct du festival Indélébile à la Chapelle. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le téléfilm coquin que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Pedro Guiadola, l'entraîneur de Barcelone, se zlatane vers moi dans son costume gris, l'air préoccupé, un bras embarrassé. En ce temps-là, je zlatanais qu'il était réglo, pas vraiment le style de Mourinho ou Capello, mais un type zlatanement bien. C'était avant que nous zlatanions à avoir de sérieux désaccords tous les deux. Voilà.
Il a dit Pedro Guiadola.
Je suis handicapé. Voilà.
Pedro Guiadola, attends, je vais.
Pep
Guardiola.
Pepe Guardiola. T'essaieras de lire un bouquin pendant que du sport essaie de te le reprendre, tu vois, c'est pas évident. Hein.
Bah, attends, quand même, quoi.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Basket. Et la participation exceptionnelle de JB.
Non, de Morgan. Enfin, un jour que je me corrige. Bonjour à tous, bonjour du sport, bonjour Ultimatum, bonjour Morgan.
Salut.
Bonjour à notre invité Guillaume Lemoine, ça me fait plaisir que tu sois venu.
Ça me fait plaisir d'être là, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Salut,
parce que c'est vrai que on en parlera tout à l'heure, c'est un invité qui galope un peu partout et il a de quoi. C'est une émission qui s'excuse platement, pas seulement pour ne pas avoir fait d'émission la semaine dernière, mais aussi pour la Black Carambar.
Ah, tu t'es fait piéger, mon pauvre.
On explique ce qui est arrivé. Quand même, il y a une boîte de com qui a été payée par Carambar pour lancer la marque. Ils se sont dit, pour le 1er avril, on fait une grosse blague. Le gros problème, c'est qu'ils ont lancé la blague 15 jours plus tôt, ouais, avant, en se disant, comme ça, les hebdomadaires vont lancer le truc avec un kit éducatif. Il y avait un vrai cartable et tout. Enfin bon, ils avaient bien fait le truc. Le problème, c'est que donc, ils l'ont envoyé 15 jours avant pour que les hebdos le sortent le vendredi. Et ils ont oublié Twitter.
Le petit oiseau.
Le petit oiseau, Facebook,
Google Plus, MySpace.
Non, MySpace non, mais Overblog.
Ah.
Puisque venez nous rejoindre sur le deuxième écran de la radio de l'émission pour suivre en direct nos envois de billets et tout. Et
ça va tweeter.
Ouais.
Ah. Oui. Enfin, les deuxièmes écrans, c'est super radiophonique, Xavier.
Oh, oui, non, mais c'est français. Je sais pas, ils arrêtent pas de dire deuxième écran. Ah, on fait de la radio.
C'est ça.
Ah, d'accord, ok. Ok, on va.
Ça va pas mieux, hein.
Non, vraiment pas.
En plus, vu la technologie qu'il y a sur le plateau, oui. C'est pas deuxième écran, c'est 10e, 11e, 12e. Merci Guillaume pour nous avoir.
J'espère que.
Pour booster les quotas là.
Voilà.
Il y a du pixel.
Guillaume Lemoine, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. J'espère que tous les téléphones sont sur vibreur, sinon il y en a qui sonnent. Je vais vraiment aller. On va expliquer pourquoi donc le CEO de Phonitive, éditeur de logiciels pour smartphones et tablettes, est présent parmi nous. C'est une news qui est arrivée c'était un événement qui a eu lieu la semaine dernière, en fait, vendredi dernier, à 20h, ce qui concernait en fait un de tes concurrents, hein, je suppose, Isneo. Isneo,
on
c'est
pas sur le même métier, mais ouais.
Isneo, en fait, s'est lancé dans l'édition d'une liseuse de bande dessinée pour smartphones et tablettes. Lors du lancement, ils fanfaronnaient d'être exclusivement sur l'App Store pour l'iPad. Moi, je me souviens que quand j'ai discuté avec eux à Angoulême, ils disaient « Non, mais Android, on s'en fiche, il n'y a pas d'intérêt là-dedans et le marché est complètement marginal. Et de toute façon, la tablette, c'est l'iPad, point barre. » Bon, depuis, ils sont aussi présents sur Android, ils sont aussi présents d'ailleurs sur le web. Et il propose surtout un catalogue de plus de 4000 titres de bande dessinée via des partenariats, notamment avec le groupe Média Participation, ce qui veut dire Dargo, Dupuis, Le Lombard, Lucky Comics, Kana, Black et Mortimer, le groupe Gallimard, donc Gallimard BD, Casterman, Fluide Glacial, Futuropolis, Les Humanoïdes Associés, Bambou, bref, un catalogue plus conséquence avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres qui se vendent très bien quand même, hein, en format papier. Et qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier ? Vendredi à 20h, l'un des responsables de l'éditeur Isneo est appelé par quelqu'un de l'App Store d'Apple aux États-Unis qui lui dit « Retirez tout contenu pornographique accessible via votre application. Si on trouve un seul e-book qui monte un sein dans 30 heures, votre application est bannie de nos appareils. »
Un sein, le début d'un sein même, je dirais.
Une courbe suggestive.
Ils sont pas un daddy Marvel quand même. Non.
Et là, je les cite « Apple ne nous a donné aucune consigne sur ce qu'ils jugent comme pornographique ou pas. Nous leur avons proposé de nous caler sur l'e-book store, qui est la librairie de livres numériques d'Apple, pour retirer les titres, car nos BD sont aussi vendus donc sur la librairie en dehors de notre application. Nous avons essuyé un refus. Notre interlocuteur nous a rétorqué qu'e-books et l'App Store étaient deux choses complètement différentes. Ils ne nous ont donné aucune clé d'appréciation pour faire le tri. C'est ce que donc Isneo a répondu à une interview à ebooks.com. Branle-bas de combat, le catalogue passe en 30 heures de 4000 BD à 1200. Même Black et Mortimer a été blacklisté. Puis un deuxième tri a été fait par l'éditeur pour tenter d'en sauver avant le début de la semaine, ce qui fait remonter le catalogue à 2500 BD. Ça fait quand même 40% de censurés. Moi ça me fait rire, on en reparlera peut-être, mais le navigateur Chrome pour iPhone est classé 18+ dans la boutique d'App Store, alors qu'il fait exactement la même chose que le navigateur Safari qui est embarqué par défaut. Bon, évidemment, Thomas a un avis très particulier sur la bande dessinée franco-belge. Quand on ouvre un album au hasard...
Au hasard. Attention, nous sommes dans une spécialité non radiophonique aujourd'hui.
Bah non, mais d'un autre côté, je l'ai préparé.
C'est au hasard, au hasard.
Complètement au hasard. Il y a un courant d'air.
Pousse le marque-page là. Attends.
Voilà, une fille à poil. C'est vrai que c'est une constante.
C'est vrai qu'on va parler BD pour enfin, après,
pas trop de poils, quoi.
Voilà.
pas la bouche pleine, s'il te plaît.
Alors évidemment, pour en parler, on aurait pu le faire par nous-mêmes. D'une manière
c'est,
tout à
c'est
fait.
C'est toi qui as fait la blague, hein.
On l'a fait par nous-mêmes, on pourrait le faire par nous-mêmes, c'est d'une manière sérieuse et tout ça, mais il nous a semblé plus intéressant de le faire avec un spécialiste du secteur. Fonitif développe des applications pour les smartphones et les tablettes. La dernière création de cette boîte s'appelle Touchalyz. Elle est bardée de prix, remarquée lors du salon Le Web à Paris, au Mobile World Congress de Barcelone, a été choisie par l'opérateur Orange pour promouvoir son nouveau réseau 4G. Bravo quand même, sincères félicitations. On ne va pas parler de Touchalyz car je crois que Guillaume en est lassé. On ne va pas non plus faire de démonstration à la radio parce que
c'est visuel.
C'est visuel, voilà. On expliquera peut-être. Et donc, légal disclaimer à la demande de nos amis du CSA. Thomas et moi-même avons été sollicités par la société Fonitive en tant que prestataire. Et Morgan est salarié de cette entreprise. Ce qui veut dire que si jamais du sport demande ouais, à quand une version Touchalyz pour Nokia 3330 Donc, à quand une version de Touchalyz pour Nokia 3330, ça veut dire que Morgan devra faire ses cartons ce lundi. Ah. Néanmoins, soyons clairs, on a invité Guillaume car c'est un ami qui connaît très bien ce secteur et qui peut avoir un discours dépassionné sur le sujet. À vrai dire, Didier Passamonique, directeur d'ActuaBD, m'encourage à le faire boire pour qu'on ait des propos polémiques qui secouent le secteur éditorial.
D'accord.
D'où la pression
à
consommer avec modération. Devant, voilà.
D'accord. Okay.
Voilà. Donc,
j'arrive à me tenir.
Guillaume, quand a été lancé la société Fonitive ?
En 2009. On a lancé en 2009 justement et on a notre première application était justement un lecteur de BD pour un petit éditeur ici toulousain qui a arrêté depuis mais
on a qui a arrêté la BD ?
Non, qui a arrêté l'App Store parce que c'était plus compliqué que ce qu'il pensait d'un point de vue marketing.
Ah, intéressant. Ouais, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
Je pense d'ailleurs que la news est une bonne news marketing aussi.
D'accord. Intéressant.
Un petit peu de polémique.
On va vite parler quand même de Touchalyz, donc l'application qui cartonne. C'est une vidéo dans laquelle on peut changer à la volée
le contenu, modifier la couleur des objets, avoir des informations sur ce qu'on voit. C'est de la vidéo tactile en fait. On a créé le principe de vidéo tactile.
Donc c'est une application qui quand même intéresse plus les publicitaires, mais pourrait amener du contenu d'une manière totalement différente.
Ouais, là on vise pour l'instant les publicitaires, mais après ça va être pour le e-commerce et aussi, moi j'espère, sur le e-learning bientôt. On est en train de discuter avec avec l'Académie de Toulouse pour faire des premières XP et faire des choses intéressantes.
Alors, putain, comment il se tient, attendez, le e-learning?
Ouais, alors déjà, oui, alors e-learning, XP et tout, je pense qu'on va perdre des gens, là.
Ah, pardon.
Fais pas semblant.
Qu'est-ce que c'est l'e-learning?
C'est apprendre avec des ordinateurs.
Bah ouais, en gros. Ça paraît logique.
Donc, apprendre avec une tablette.
Voilà. Voilà. Ceci dit, Morgan, la dernière fois, il m'avait expliqué ce qu'était l'ICOS, quand même. C'était ça?
Oui, ouais. L'ICOS.
Donc, pas semblant.
Oui, c'est, non, c'est vrai. Il a un terrain quand même, assez propice à ce genre de questions.
Ouais, c'est vrai. Tu connais pas le Labrador?
Non.
Ah, oh, d'accord. T'avais loupé un truc.
C'est pas un Labrador.
C'est un Labrador, l'icône.
C'est un Labrador noir.
Ah bon?
Mais oui. Ah, oui. Oui, il est noir, ouais.
Oui, bah oui.
Go get it, quoi. On s'en sortira pas.
Au secours. Alors, quand tu fais une application, comment on fait pour la commercialiser? On est obligé de passer par un canal obligé?
Ouais, on est obligé de passer par un canal obligé. On dépose donc sur les stores, que ce soit pour l'Android, Android Market, le Play Store maintenant, pardon, l'Apple Store ou le Windows Market. On est obligé effectivement de le déposer. C'est plus ou moins rapide. Apple valide des applications, ça prend une semaine à peu près. Android, c'est instantané, mais ils se réservent le droit de revenir dessus quand ils veulent. Et Windows Market, on n'a pas encore fait, mais... je pense que ça doit être à peu près comme Apple.
Alors pour déposer une application, tu fais un dossier avec pour présenter
non,
un
peu. C'est pas un dossier, c'est surtout ce qui va être présent sur les markets, donc les screenshots, la description d'application, tout ce qui va permettre de faire le marketing de l'appli sur le marché.
Justement. Et alors il y a une guideline à respecter, c'est ça?
Voilà, il y a des règles, comme dans tout magasin, je pense. Il y a des règles.
Mais est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que quand on achète un smartphone, on est obligé en fait à vie d'être bloqué vis-à-vis de ce fabricant pendant la vie du smartphone, quoi.
Sur iPhone, oui, parce que en fait le seul canal de distribution officiel c'est l'Apple Store. Après, il y a des moyens d'avoir d'autres moyens, mais bon, il faut craquer son téléphone. Après, sur Android, il y en existe plusieurs des markets. Et sur Windows, c'est pareil, il n'y en a qu'un seul. Donc effectivement, c'est piloté par le constructeur.
Quand Apple menace Isneo de retirer leur application, est-ce que ça veut dire qu'aussi ils le retirent du terminal?
Non. Ils peuvent pas. Du moins, à ma connaissance, alors après je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, ils le.
Je sais que Google en a retiré quelques-unes déjà.
Ouais, ils ont la possibilité. Je sais que ça existe le système pour le faire. Après, savoir s'ils le font. J'ai jamais entendu faire, donc.
Non, je pense pas. Une fois que tu l'as téléchargé, tu la gardes.
Ouais, je pense que tu la gardes parce qu'en plus, il y a des gens qui ont investi de l'argent dedans, donc, ça serait plus que mal vu, quoi.
Alors, on a dit que tu es capable d'être passionné. Là, on commence à voir le pif qui commence à changer de couleur.
Troubles.
J'ai pris qu'une gorgée.
Tu n'édites pas que des logiciels pour toi-même, tu édites aussi des logiciels sur commande.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà quels ont été en fait tes principaux clients et est-ce que tu as déjà travaillé dans le milieu de la bande dessinée?
Les principaux clients, donc on a travaillé pour l'opérateur historique, on a travaillé pour des gens qui faisaient de l'eau pour faire des systèmes de réponse à appel d'offres. On a fait bon après c'est sur le site, hein, on a travaillé pour plein de gens différents justement pour payer notre R&D pour permettre de faire d'actualize. Donc voilà. Après, oui, j'ai travaillé sur le milieu des BD pour une jolie petite fille avec un partenaire et aussi sur un éditeur de BD local qui a édité quelques trucs sur iPhone. Mais à l'époque, c'était iPhone 2.1, je pense, 2.2, je pense.
Le premier tout truc, début. Donc,
ça remonte
tout
début, un peu, d'accord.
Et alors, du coup, est-ce que justement, comme on le voit dans les démos sur les bandes dessinées qui deviennent interactives, est-ce que ces expériences-là dans la bande dessinée t'ont donné envie de continuer là-dedans, ou est-ce que pour plusieurs raisons tu t'as dit bon c'est pas trop ma cam, ou alors c'est trop difficile, il y a trop de paramètres?
Ouais, j'ai plus dit que c'était pas trop ma cam parce qu'en fait il y a la grosse problématique de ça, de quand on développe un lecteur comme ça. Bon, la technique c'est une chose, le faire et puis le promouvoir et le vendre et gagner sa vie avec, c'en est une autre. Et il y en a beaucoup qui y sont essayés, ils y sont pas arrivés, donc voilà. Il vaut mieux essayer de se focaliser sur les choses qu'on sait faire.
Alors est-ce qu'aujourd'hui la BD virtuelle, ça ne fonctionne pas? Est-ce que vraiment les utilisateurs préfèrent avoir l'objet physique chez eux sur leur étagère?
Toi-même, est-ce que tu lis sur liseuse, peu importe la manière dont tu as récupéré le document?
C'est pas la même expérience.
Non, c'est pas la même expérience, moi je lis surtout. Donc j'aime bien...
Même dans les entrailles de poisson?
Ouais,
c'est ça. La mare de café.
Non, mais j'aime bien avoir des bouquins physiques. Là, je suis en train de lire Civil War et je n'imagine pas l'avoir juste sur iPad. Derrière, après, ça m'est arrivé d'acheter des BD sur iPad et j'avais un Kindle aussi pour les docs techniques ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien. Donc après, c'est plus la sensation. Et mais c'est vrai que moi, la BD, j'aime bien le côté voir le dessin et toucher ce qui a été fait.
Sur le deuxième écran, donc, on a un audio lecteur qui nous demande à quand une version sans robe pour la vidéo de démo de Touch Lies.
Ah. Ça va venir. Vu le nombre de fois où on nous la demande, ça va venir.
D'accord. Alors, on parlait, on avait interviewé justement les auteurs d'un film qui était passé sur Arte, qui était Je vous ai compris. Donc, ils ont développé une IBD tirée de ce long métrage d'animation, qui est une technique hybride déjà en mi-chemin entre la rotoscopie et la fabrication intégrale de décors en virtuel. Est-ce que toi, c'est quand même une technologie qui t'intéresse en tant que développeur aussi?
Ah oui, oui. Après, c'est la curiosité de voir justement comment les gens bossent et mettent en place des nouvelles techniques. C'est toujours intéressant et consommer et juste voir ce qui est de nouveau et comment les gens s'investissent dans des secteurs, c'est super parce que voilà, nous on est parti sur la vidéo, mais après des arts, il y a plein de choses à faire. Donc de voir comment d'autres traitent des sujets comme cela, c'est vraiment intéressant. Quoi.
Et alors justement, en tant que profane, la technologie que vous avez mise en place pour justement l'application Touch Allies, est-ce que tu penses que ça pourrait être décliné sur un univers d'IBD justement, oui, où on peut changer les accessoires, les décors, etc. Et puisque dans l'IBD, on peut changer les décors, on peut changer la tronche des personnages, est-ce que toi c'est...
Bah c'est sur le dessin animé, nous on travaille sur de la vidéo, donc sur le dessin animé, sur du manga, sur des choses comme ça, on pourrait vraiment avoir... Après, il faut rencontrer les bons auteurs et on pourrait vraiment voir des choses intéressantes. Donc après, c'est juste une histoire de mise en forme. Si on produit des vidéos en stop motion, ça peut être... voilà.
Alors maintenant, on va faire le moment gag. Tu as plein de téléphones devant toi.
Attention. Ouais.
Je suis sûr que tu as l'application Touch Lies. Est-ce que tu peux faire le moment non radiophonique au possible, la montrer à du sport?
Ouais,
Je veux voir ça, que ça soit amusant, quoi.
C'est pas très passionnant.
Morgan, tu m'as...
Non, il peut commenter.
Ah, très bien.
Morgan, je suppose que tu la connais, l'appli, donc tu peux commenter.
Un petit peu, ouais.
Il y a du sport.
Alors là, du sport est perplexe, il mâche.
Oui, du sport est...
Parce que nous, on voit juste la coque du téléphone.
Ouais, parce que là, moi d'ici, je ne vois absolument rien.
D'accord.
Alors,
je t'ai signalé qu'il a pris une vidéo.
On change de couleur.
Du sport a dit d'accord.
Bon, d'accord.
Bon, c'est pas une robe, c'est les sous-vêtements féminins.
Et du sport à souris.
Tu serais pas un bon commentateur sportif, toi. Hein.
Il a le ballon, et voilà.
Oula.
Oulala. Il court.
C'est un problème de vue, en fait, hein. Tu sais, moi, les petits écrans comme ça, c'est...
Quoi, t'es daltonien? Parce que si on change de couleur, forcément, on va pas...
Là, ça me parle mieux. Tu vois?
Ah, ça te parle mieux. Qu'est-ce qui te parle mieux?
Qu'est-ce qui te parle mieux?
Voilà. En ce moment,
moi, je viens de dans ces lunettes.
Qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu vois?
Que vois-tu? Dis-nous tout.
Il voit lui.
Là, je me vois.
Ah, tu te vois?
Ah. Je me vois carrément.
Et alors, il t'a donné cheveux noirs, des...
Alors, attention, on a une scène de course-poursuite de jeux vidéo et. Oh, mais attends, mais.
Mais oui.
Mais oui, mais je viens de voir passer du sport dans la vidéo incrustée dedans.
Il a dit cool.
Okay. C'est le top de ce qu'il peut faire.
Et voilà. C'était un super moment de radio.
Ah, ouais. Magnifique, je ne pouvais pas faire mieux. Celui-là, il restera, je pense.
Ah non, là, je pense aussi.
Téléchargez-le cet après-midi en podcast. Ouais.
Donc, tu lis de la bande dessinée, Civil War. Qu'est-ce que tu lis, en fait, principalement comme bande dessinée, toi?
Oh, j'aime bien les comics.
Donc, ah oui, c'est pour ça que quand tu regardais le stock,
t'étais en train de lire Civil War. Ouais. T'étais en train de lire Civil War, là, en ce moment.
Ouais.
Donc ça fait que t'as quand même pas mal de décalage.
Mais Civil War, on te rassure, c'est une série qui a une fin. Tu sais que tu n'auras pas jusqu'à tes vieux jours pour...
Ouais.
Donc Watchmen, Spirit, Nemesis, Doc Savage.
Je suis un débutant, mais Watchmen.
T'aimes bien quand c'est au cinéma après.
Après j'aime bien
au
cinéma.
Moi aussi j'aime bien.
Et quand on pose le cerveau sur le côté.
Alors, est-ce que tu lis la bande dessinée franco-belge?
J'ai lu. Alors qu'est-ce que j'ai lu? Du Tintin, j'ai lu du Lanfeust, du Troll, du...
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on peut considérer, parce que tu as voyagé aux États-Unis, je suppose,
ouais,
est-ce qu'on peut considérer que la bande dessinée franco-belge, c'est vraiment 40% de pornographie?
Il a pas tout regardé, peut-être.
Ouais, non, mais déjà, sur Lanfeust 3, Sexy.
Sexy. C'est facile, celui-là. mais derrière, ouais, Mais je suis pas bien sûr parce que les femmes dans les comics elles sont quand même comment je vais dire ça,
agréables à regarder.
Elles sont physiquement
bien dessinées. Ouais.
Alors quand tu prépares une vidéo en fait pour cette application, est-ce que tu te dis des fois, tu es déjà dans ce mode de pensée en te disant est-ce que ça passera aux États-Unis même si c'est que pour l'Europe?
Non, mais en fait c'est là-dessus aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était peut-être un petit peu un coup de pub marketing, parce que il existe quand même des solutions pour Isneo de faire paraître toutes ses BD. Il y a pas là en fait la grosse problématique, c'est que il utilise le canal de vente d'Apple pour diffuser. Et donc il doit se plier aux règles d'Apple. Mais si on prend l'application Kindle par exemple d'Amazon, je suis désolé, je suis un peu de pub, mais
non, mais tant que tu en cites au moins trois marques, y a pas de problème.
On vend pas, eux ne vendent pas les bouquins à partir d'applications iPad ou iPhone. Donc là, ils peuvent pas être inquiétés. C'est juste une liseuse. Si Isneo rentrait dans ce système-là, parce qu'ils ont un site web, ils ont une application Android, ils rentraient dans le système à dire, on fait nos utilisateurs acheter sur le web parce que maintenant ils sont connus. Et derrière, leur système, c'est un système qui permet de télécharger ce qu'ils ont acheté. Il y aurait aucune BD qui serait rejetée.
Oui, mais apparemment, ils l'ont déjà. Est-ce que ça veut dire que les gens les utilisateurs sont plus habitués à acheter à partir de leur téléphone que justement par un autre canal?
Ouais, peut-être. C'est peut-être plus facile, mais en plus là, ils cèdent 30% à Apple, alors que s'ils prenaient le système comme Kindle, ils le feraient pas.
Est-ce que tu penses mais Kindle, c'est juste un truc qui est en fait une location de bouquins, ni plus ni moins, puisque bon, bah, tu peux stocker, mais bon, tu peux juste stocker sur ton truc Kindle, tu peux même pas le transférer.
Maintenant, alors aux États-Unis pas encore en Europe, mais maintenant on peut donner les livres achetés sur Kindle, on peut les donner à quelqu'un.
On peut se les changer à un autre Kindle.
On est dépendant du support en fait.
Oui, mais tu peux pas le mettre sur un autre support, ouais.
Ouais, on peut pas le sortir, mais après, il y a Kindle sur iPad,
alors que les applications sur téléphone,
tu peux les télécharger sur ta plateforme. Tu peux les télécharger, ça.
Non, il y a pas de téléchargement. Ah, voilà. C'est le même principe. Et l'application Kindle est disponible sur PC, sur iPhone, iPad, Android, et ainsi de suite.
Donc, si nous lisons entre les lignes, est-ce que tu penses, tu insinuerais qu'Isneo s'est servi de cette polémique-là pour marteler le nombre de bandes dessinées francophones qu'ils avaient dans leur catalogue?
Voilà, ChatGPT est en train de changer le logiciel comptable pour les publicités.
J'irai pas jusque là, mais juste pour dire qu'à mon avis, il y a des solutions pour contourner ça. Et je suis étonné même qu'ils aient pas encore rentré dans ce système-là pour justement s'affranchir des 30% d'Apple.
Alerte complot.
Est-ce que quand même, parce que là on parlait donc de Kindle, il y a que des opérateurs américains. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est verrouillé, c'est que des grands groupes américains qui donc vont nous vendre le contenu une fois qu'on est sur ces deuxième écran, troisième ou quatrième.
Attends 2-3 ans les Chinois, tu verras.
Pas du tout.
ou les Russes.
Non, ou les Russes.
Oui.
Non, pas du tout. Parce que il y a des gros éditeurs. Si on prend Shazam, c'est une application anglaise, c'est pas américain. Skype, c'est devenu américain, c'était racheté par Microsoft, mais ça l'était pas. Voilà, il y a quand même beaucoup de gros éditeurs. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, mais il faut pas non plus être dans la théorie du contrôle du monde, je pense pas, quoi.
Est-ce qu'il y a quand même une crainte que, du coup, ces éditeurs américains, ces constructeurs américains décident de dire, écoutez, là, peut-être que dans votre pays, la morale, ça passe, mais pour nous, ça passe pas.
Et c'est ce qu'ils font.
Mais de toute façon, oui. Et effectivement, c'est pour des éditeurs comme nous, c'est une grosse problématique. On reste quand même à la merci de Apple, Google et Microsoft qui, si demain, ils décident de dire non, on n'en veut plus, et ils en voudront plus. Quoi. Donc, il faudra trouver des plans B. Après, je pense qu'il y a toujours des plans B.
Est-ce que les films français un jour vont se retrouver aussi censurés que n'importe quel film dans les Walmart?
C'est pas le contenu,
parce qu'aux États-Unis il y a deux types de contenu
qui est censuré. Attention, c'est pas moi je vois pas comme ça. C'est pas le contenu qui est censuré. Aujourd'hui, on va dans un supermarché, il y a pas de contenu porno parce que le supermarché a choisi de pas vendre du porno. Donc moi il y a le lieu de vente.
Il y a la loi de 74 surtout.
Ouais, mais...
d'exposition publique.
D'accord. Mais on est d'accord. Mais on est bien dans un univers qui est régulé. Il y a la plateforme de vente qui est comme un magasin où eux choisissent les règles, mais derrière on y met ce qu'on veut. Donc si par exemple tout à l'heure tu parlais de Chrome qui était interdit 18, c'est juste parce que avec cette application là on peut potentiellement consulter du contenu interdit au moins 18 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a cette limite là, mais derrière voilà, c'est tout ce que ça implique. tu prends ton application Chrome sur ton iPhone, tu peux aller sur n'importe quel site, c'est pas censuré.
Est-ce que toi, tu as déjà été une application censurée, et si c'est pas le cas, est-ce que tu aurais aimé on faire monter le petit peu le
buzz? On a été rejeté.
C'était rejeté.
Non, après, bon, c'était sur des correctifs, mais c'était des trucs à la con. Je saurais plus dire exactement quoi, mais c'était, il y avait des, on n'a jamais eu de grosses problématiques. À dire, on doit revoir complètement l'appli parce que les gens, Apple n'en veut pas, quoi.
Et est-ce que tu as eu des affrontements culturels? Par exemple, ce qui passait pour nous, Européens, ne passait pas pour les États-Unis ou des choses comme ça? Non.
Non.
D'accord.
Non.
On en a parlé lors de notre émission le 24 novembre, où on était au Capitole du Libre. Donc il y a maintenant, on se dirige plus vers le navigateur qui est capable de faire pratiquement tout ce que pourra faire une application. Il y a même un téléphone qui va sortir qui est uniquement dirigé avec son navigateur web. Est-ce que justement ça va permettre de sortir un peu de ce dictat des marketplaces?
Oui et non. Parce que quand on sera sorti du dictat des marketplaces, on sera dans le dictat des gens qui font la norme et qui la suivent ou qui la suivent pas. Donc l'un dans l'autre, on reviendra toujours sur des problématiques quand même. Voilà. Et puis après, il y aura toujours les personnes au milieu, style la polémique qu'il y a eu sur le fournisseur d'accès qui filtrait la pub. Il y aura toujours des polémiques là-dessus aussi. Donc je pense que Internet est un endroit où il y a beaucoup de liberté. Il y aura toujours des gens qui essaieront de le contrôler pour faire de l'argent. Et puis là, il faudra toujours être prêt pour lutter ou trouver des plans B.
D'accord. Donc en fait, entrepreneur, pour la liberté d'expression, quoi.
Ouais.
Super, on va finir par concilier BFM Business et FMR. Ouf, c'est improbable.
Edwy Plenel, si tu nous entends.
Stéphane Soumier, c'est pour toi, ce pora ultra-libéral.
C'est ça.
est-ce que toi, tu aurais aimé voir une application censurée? Juste par sadisme.
Ah ouais?
Ah, par sadisme?
Ouais. Pour couler un concurrent.
Ah bah c'est. Est-ce que ça s'est vu? Il y a eu des trucs qui ont été faits avec. Bah là, il y a eu des trucs avec Google Maps. Non mais après, ils se sont.
Ils ont mis du temps avant de la valider
ou des choses comme ça.
Avec Google, c'est toujours ça.
Avec Google, ils se tirent la bourre et puis après, ils se tirent dans les pattes. Mais. Tant que ça arrive pas à moi, ça peut être rigolo à regarder, quoi.
D'accord. On imagine que le marché de l'évolution de justement du marché pour les tablettes et pour les smartphones, quand toi tu as commencé, on imagine que ça restait beaucoup plus confidentiel qu'aujourd'hui. Mmh. Quel est aujourd'hui, est-ce que tu as les chiffres de combien dispose l'utilisateur moyen de smartphone d'applications? Quel est le pourcentage d'applications achetées par rapport aux applications gratuites? Est-ce que toi oui, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des...
Marketing man, tu peux répondre.
Faut que je change de casquette, c'est ça? Attendez, j'arrive. Hop. Alors, je t'écoute. Là, de tête comme ça, je sais qu'il y a énormément de d'applications qui sont téléchargées, mais qui sont pas gardées plus de 48 heures, en fait.
Alors,
environ 70%.
Pourquoi?
Parce que les gens, en fait, c'est très éphémère. Les applications, il y en a beaucoup, elles sont gratuites la plupart. Ils vont trouver l'icône sympa, ils téléchargent, hop, ils ont fait un peu le tour et hop, ils suppriment. Parce que c'est cette mode de, justement.
Alors, ils suppriment pourquoi? Parce que ça prend de la place
c'était pas assez intéressant, parce que.
Ça prend de la place sur l'écran.
Ça prend, voilà, l'icône est pas assez jolie pour eux. Ça dépend, mais il y a des jeux comme ça, surtout souvent des jeux, qui sont téléchargés. Les gens téléchargent juste pour tester, ils regardent, ils voient les screenshots, tiens, c'est sympa, c'est gratuit. La majorité des applications sur l'App Store sont gratuites, en fait. Enfin, en tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Et sur Google Play, c'est l'inverse. Que je dise pas de bêtises.
Non, je sais pas. Mais sur Google Play, en fait, les gens achètent beaucoup moins sur Google.
Ouais, par exemple, le jeu Angry Bird est gratuit sur Google Play, mais tu auras de la publicité. Et sur l'App Store, il est payant, mais tu n'auras pas de publicité.
Et comment ça se fait?
C'est parce que Le public d'Apple, de Google
n'achète pas.
Ouais, et d'Apple est prêt à bouton et donc plus enclin de
plus apte à dépenser de l'argent.
C'est énorme. Ils sont plus appelés donc. Non, j'ai pas dit ça, non.
Va maudit.
quand on va dans les locaux de Phonitive, outre qu'il y a une équipe avec vraiment un bon esprit frappeur des fois.
Ah oui.
et mon mug d'ailleurs qu'il faudrait que tu me ramènes. Il y a aussi énormément de formats de tablettes. Je suppose que tu as peut-être essayé des liseuses. Quel est le format de tablette finalement qui semble être le plus pratique À la fois pour la lecture et le transport.
Celui qui tient dans les mains et dans les poches. Non mais j'aime bien les tablettes 7 pouces. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon compromis. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et, voilà, on peut. Non, je trouve que c'est sympa. Après, personnellement, j'utilise tous les formats. Mais après, je suis peut-être un peu déformé.
Et dans votre entourage à tous les deux, quel est plutôt le, ou alors marketing man peut-être, quel est le profil, l'âge moyen, est-ce que ce sont des de lecteurs de bande dessinée sur ce type d'écran, est-ce que par rapport, est-ce que ce sont des consommateurs de BD qui lisent beaucoup de BD naturellement, ou est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui se mettent à la BD par ce biais-là?
Alors là, je te cache pas que je suis pas sûr que les gens se mettent à la BD via, par exemple, un iPad. Je pense pas. Je pense que au contraire, c'est plutôt les gens qui ont déjà des BD qui vont aller télécharger ce genre d'application. Mais après, peut-être que oui, ça peut fidéliser. Je sais pas. Honnêtement,
je pense qu'on est plus dans une démarche quand même proactive de l'utilisateur, dans le sens où c'est lui qui va aller chercher ce qu'il veut. Surtout dans le domaine de la BD où il y a des éditeurs qui sortent eux-mêmes leur liseuse ou des choses comme ça, il n'y a pas forcément de promotion sur ce qui est fait. Donc pour faire découvrir le monde de la BD,
c'est des gens qui ont un pied dedans, voilà. Et qui savent qu'il y a ça qui sort.
Ouais. Ouais, parce que c'est difficile de découvrir des nouveaux produits sur les boutiques virtuelles. Souvent, on sait ce qu'on veut, on le trouve ou pas, mais c'est difficile de. Ils poussent du contenu, c'est vrai, mais pas finalement.
Non,
pas
c'est, ça, c'est plus le côté, recommandation, promotion et côté sur les réseaux sociaux, on dit que la pille est bien, donc on va chercher et ainsi de suite.
Ça se passe sur Internet. Ouais.
J'ai une question pour du sport, moi, puisque maintenant du sport est devenu accro à l'ordinateur, c'est plutôt. chaque fois qu'on entre dans le studio, bon. Il est toujours avec une souris à la main. Et que toi, tu es déjà un gros consommateur de bandes dessinées, surtout de comic books. Est-ce que toi, tu te vois franchir le pas, découvrir des bandes dessinées sur écran dans les 2-3 années qui viennent, et ce n'est pas la peine de faire des rictus, ça ne passe pas dans le micro?
Non, je crois pas, non. D'accord. Ça m'étonnerait, quoi. Merci. Mais plus par un manque de temps que par un manque d'intérêt, en fait.
Avant de libérer Guy.
Tout avoué.
Avant de libérer Guillaume.
C'est vrai que, comme Guillaume, quoi, moi j'aime bien le contact du papier. J'allais dire, il y a le contact avec l'objet, il y a plusieurs sens qui sont en éveil, en fait.
On parlait la dernière
fois. Moi, j'allais ajouter à ce qu'il a.
Quand on ouvre le livre de la BD.
L'odeur. Quand c'est un bouquin neuf, des fois, t'as aussi une espèce d'odeur comme ça. Certains n'aiment pas.
Je croyais que Google avait une technologie.
Selon les papiers, les différentes textures n'est pas la même, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Selon que le bouquin est vieux, est neuf. Alors donc.
Voilà. Après, l'avantage.
Il n'y a pas une techno là qui a été lancée par Google pour simuler les odeurs.
Ah, bien sûr. Ça
m'avait
aussi.
Ah mince. Deux fois d'Ascrit, ça fait beaucoup.
Ah, c'est comme les pandas en Ariège.
Toi, Guillaume, on prêche pas pour ta paroisse, parce que justement, toi qui. Tu fais aussi des applications pour des guides, pour des manifestations, des festivals. C'est sûr que là, on est en train de promouvoir toujours le support papier. Un petit guide dépliant que tu mets dans ta poche de ton jean. C'est un peu contre-productif pour ton business, là, je trouve.
Ouais, mais je pense que ça va pas. L'un va passer en l'autre. Parce que le guide papier, au bout d'un moment, il te casse les pieds. Donc,
ça fait lourd dans le jean aussi.
Ouais, ça fait lourd dans le jean. C'est des fonds, poches,
il est pas
avec les cartes de visite et tout.
Il se met pas à jour tout seul.
Donc, voilà. Après, je pense pas qu'on arrivera à s'affranchir du papier comme ça en claquant des doigts, mais les apps apportent quand même beaucoup beaucoup de choses, notamment sur les salons. Quand on fait un salon comme le Mobile World Congress, qui est juste énorme, si on n'a pas des mises à jour en temps réel, on s'en sort pas.
Alors le Mobile World Congress, donc c'est le salon archi professionnel où il y a les opérateurs et les développeurs d'applications et ceux qui font les téléphones qui sont présents. C'était en février dernier, si je me trompe, vous y étiez. Donc, quelle est la tendance à peu près? Ce que tu as vu qui
on n'a pas vu beaucoup de choses. Malheureusement,
ouais, je sais pas, on avait
beaucoup de monde.
Voilà, on n'a pas vu beaucoup de choses parce qu'on est resté dans nos 9 mètres carrés parce qu'on était un peu
bien décoré.
Mais on était un petit peu sous l'eau, mais il n'y a pas eu de grosses annonces de fait, de toute façon. Donc bon, les tendances, c'est que ça suit son cours. Il y a des nouveaux OS qui apparaissent, Firefox, Ubuntu, des choses comme ça, quoi.
Une petite question avant de te libérer éventuellement, à moins que Xavier n'en ait d'autres. Juste question un peu bête, subsidiaire. Guillaume, tu es plutôt, quand tu prends des notes, pendant que tu es au bout du fil et tout, tu es plutôt post-it à coller un peu partout avec des notes de partout et des agendas à moitié remplis avec des feuilles en bordel, ou est-ce que tu es entièrement numérisé aujourd'hui? Toi qui es trentenaire, qui est pas si vieux que ça finalement pour
non, moi je suis désolé, mais là je suis numérisé.
D'accord.
Maintenant en réunion, je suis avec soit l'iPad, soit même avec l'iPhone et je prends les notes directement. Après c'est pas dit qu'on les retrouve plus que les post-it parce qu'il y a plein d'applis.
Si je t'étends cet outil là, qu'est-ce que tu vas faire?
Va des rétro.
C'est pour embobiner les cassettes, c'est ça?
Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est un stylo.
Noir. Vous écoutez le Supplément Week-end numéro 345 sur Radio Éphémère. Tout à l'heure à 13h30, donc il y a une équipe de football américain qui vient au grand complet. Donc
Non, pas au grand complet.
Donc vivement qu'on on a intérêt franchement à enquiller derrière. C'est pas qu'on te fout dehors, mais tu peux rester bien sûr.
Attends, il y a plein de fritons et de saucisses à finir.
Il y a des croissants là qui m'appellent.
Ouais, je l'ai attiré. Je pense que ta femme Elena va beaucoup m'en vouloir. Bise à elle d'ailleurs. Donc voilà, du sport m'a dit, tu vas voir la femme, c'est parfait. Sur la planche, donc c'est extrait de l'album Psychotropical Berlin qui sort aujourd'hui. C'est ça? Il sort en quelques jours.
Ah, je sais pas, il y a la date.
La semaine dernière?
Non, pas exactement, mais c'est Mickey. Et la semaine dernière, on n'était pas là, je te rappelle.
Ah, et puis ce Mickey-là, il fait du la bataille
15 jours.
La femme sur la planche sur Radio Éphémère. Et Guillaume est parti pour faire du code, tomber du code et tout.
Donc, oui.
On le remercie en tout cas d'être passé. Maintenant, on va passer à la revue de presse.
Et oui, la revue de presse. La revue de presse, donc, qui m'a été passée une fois n'est pas coutume par notre ami JB, qui ne peut pas être parmi nous aussi souvent qu'il le souhaiterait.
Il a qu'à écrire ses chroniques.
Et surtout qu'il a un foyer qui s'est drôlement agrandi depuis quelques temps. Donc voilà, il m'a passé.
Il a changé de maison.
Ah, il éparpille les braises.
Il m'a passé ce magazine qui s'appelle Kaboom, Kaboom numéro 1. Donc c'est un magazine trimestriel qui sort que tous les 3 mois, donc février, mars, avril 2013, 6,95€ en kiosque. Alors c'est la version, on va dire, un éclairage sur la bande dessinée qui est plutôt BD auteur, un peu intello. Alors le rédac chef de ce magazine, c'est Stéphane Beaujean, et l'interview phare de ce numéro, c'est Chris Ware. Chris Ware,
ah oui,
qui était parmi les nominés pour obtenir le prix le prix du festival d'Angoulême cette année pour un grand prix l'année prochaine, président du festival l'année prochaine, donc grand prix cette année, excusez-moi. Donc Chris Ware, donc voilà, entretien fleuve avec le géant de la bande dessinée américaine, donc qui fait d'ailleurs la couverture. En dehors de cette interview de Chris Ware, on avait une interview croisée excellente, vraiment très intéressante, entre Jacques Tardy et Emmanuel Guibert, qui ont questionné justement le rapport à l'exactitude historique, le rapport à la retranscription d'anecdotes, la mise en scène, le rapport au réalisme. Ça, c'est super intéressant, comment ils représentent en dessin les témoignages. Est-ce qu'il faut véritablement se déplacer dans les lieux où a eu lieu l'histoire qu'ils décrivent? Ou alors, est-ce qu'il faut faire uniquement à base d'imagination? C'est vraiment passionnant, une interview vraiment sur le découpage, sur la mise en scène dans une bande dessinée. Et puis, comme il n'y avait pas... Ça faisait pas assez, probablement, une interview de Katsuhiro Otomo. Excusez du peu.
Ah oui, voilà, ok.
Qui dit qui revient à la bande dessinée, justement, après un gros passage par le monde de l'animation. Et justement, il décrit que, en fait, son rêve, c'est de revenir vraiment à la BD sans assistant. Et donc il décrit également son sentiment.
Je crois que même Domu il l'a fait avec des assistants.
Oui, oui, et il disait que en fait ça le saoulait de faire appel à des assistants, et lui c'est vraiment, il veut tout dessiner tout seul. Et il décrit justement ce rapport au nucléaire, puisqu'il disait, il y a le journaliste qui lui dit qu'est-ce que ça vous a fait justement que les médias européens, occidentaux, se servent de l'explosion d'Akira pour illustrer justement la catastrophe de Fukushima. Et il dit alors, c'est vrai que du point de vue non japonais, c'est vrai que nos destructions en masse, qui sont tellement partie prenante en fait de nos univers, peuvent résonner pour vous comme une réponse au nucléaire. Mais en fait, il faut savoir que nous, on a tellement été traumatisés par le nucléaire qu'on peut pas se permettre d'en parler à la légère ou de faire des relectures un peu au second degré. Moi, quand je dis une destruction, c'est pas du tout par rapport au nucléaire. C'est juste que moi, en fait, depuis tout petit, quand je vois des imbrications, des bâtiments autour de moi, j'imagine de quelle façon ils vont être détruits. Mais ça n'a rien à voir avec Hiroshima ou Fukushima. Alors c'est une remise en place et tout, et tous les articles dans ce magazine-là.
Rappelle-moi quand est-ce qu'il est né, en 54, donc il a connu quand même les grandes manifs des années 60-70 contre l'installation nucléaire. Hein,
Oui, mais il dit que dans ses bandes dessinées, puisque c'est quand même le pape de la destruction, et dans toutes ses œuvres, il y a un truc qui est détruit à la fin. Et bien en fait, c'est pas du tout une relation nucléaire. Et donc il remet les pendules en place. Ensuite, des interviews au taquet. Il y a un dossier sur le rapport des mangaka au nucléaire qui est passionnant. Une interview de Kino, l'auteur de Mafalda. Son rapport justement au régime militaire et justement ses regrets, il décrit de l'intérieur comment il a vécu le fait que ses dessins étaient récupérés par les activistes. Une interview de Derzo où il décrit son rythme de travail, on voit que c'était pas des tafioles, et au niveau des stakhanovistes du dessin, il dit que oui, justement, à une époque, il fallait bosser quand même, hein, pour faire son trou.
Je crois qu'il était entre 12 et 20 planches d'ailleurs pendant les 4 premières années.
C'est un rythme proprement hallucinant. Je sais plus combien il pondait de planches. Je sais plus. Et il a dit, mais je l'ai pas
dans
noté.
Dans les premiers pilotes, si je me souviens bien, il y avait entre 2 et 4 planches d'Astérix, 2 et 4 planches de Tanguy et la Verdure. Il faisait aussi la couverture, mais il bossait aussi dans d'autres revues.
Et il disait justement qu'à un moment donné, il allait sans croquis préparatoire, il avait tout dans sa tête, et il allait au crayonné texto, j'y vais franco sur la page. Il disait, de toute façon, je pouvais pas me permettre de faire autre chose, j'avais pas le temps. Voilà, donc le mec, voilà, carrément. Et puis en plus, à la fin, il y a aussi un dossier qui revient, je passe sous silence beaucoup d'autres dossiers, et un dossier sur Jacobs.
Et Jacobs, en fait, le dossier, alors, c'est une approche intello de la BD, et tu te dis, bon, à un moment donné, bon, le gars, il est gentil, mais est-ce qu'il voit pas ce qu'il a envie de voir? Et alors, tu fais l'ascenseur, en fait, dans ce dossier sur Jacobs, tu te dis, ouais, bon, puis après, tu dis, ouais, quand même. Ouais, c'est... ouais, non, quand même. Ah, ouais, 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 non, 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 ça a pas l'air tiré par les cheveux tant que ça, finalement. Et en fait, l'article, Les ruines de l'intime, ça s'appelle. Et il décrit, justement, dans toute l'œuvre de Jacob, il a décrit des civilisations en ruines, des nostalgies sur des époques passées. Et justement, en fait, l'article fait le parallèle avec son deuil de sa carrière de chanteur à l'opéra. Ah. Et il dit, justement, le fait qu'il décrit que des civilisations en ruines, en fait, il règle juste ses comptes avec cette carrière, et il est passé à côté de chanteur d'opéra, voilà. Et c'est intéressant. Franchement, Kaboom. Alors, c'est pas donné, hein, 6,95€ en kiosque, mais si vous aimez les éclairages sur la bande dessinée de façon intello, plutôt, voilà, avec une vraie relecture, puis les interviews, tu vois que c'est, alors, c'est soit retranscrit en mettant vraiment la forme et tout, ou alors ils sont dans des conditions, les auteurs qui sont interviewés, vraiment, où ils peuvent exprimer de façon intellectuelle justement leur processus. Vraiment intéressant. Voilà, il y a même des avant-premières de planches de Blush de Christophe Blain. Bon, voilà, c'est une anthologie Superman, c'est pas les BD Soleil, hein.
Oui, oui, non, mais puis ça peut vous servir, vous choper quelques phrases dedans et tout, vous les ressortez lors d'une conversation entre bobos.
Oh, l'enfoiré !
Vous tuez votre race.
Voilà, donc c'est pour les amateurs de Télérama. JB, si tu nous écoutes, merci bon, de nous
allez,
avoir passé
allez,
dans ce numéro
4.
Nous
écoute. Non, moi, c'est vrai que j'étais un gros lecteur à une époque de l'indispensable qui reparaît en ce moment. Je veux bien le lire quand même.
L'immanquable, non ?
L'immanquable, pardon. Non, c'est l'indispensable.
Non, l'immanquable, je te le dis.
Oula.
Je te le dis, je suis catégorique.
Sors seconde box.
Bon. Vous écoutez FMR 89.1 MHz et on va continuer la revue de presse avec le psychopathe numéro 252. En mensuel, de ce mois-ci, 5€ en kiosque, et c'est un dossier sur la malbouffe. On nous spolie avec une caricature de Brigitte Bardot.
Pleine choucroute.
Voilà, pleine choucroute, absolument pas loupée. Et évidemment.
Le pire, c'est qu'on la reconnaît. C'est ça, moi, qui me fait peur, en fait.
Non, elle est encore plus choucroutée que ça. Hein, avec Jean-Luc Coudray, les Naïcs. Tiens, les Naïcs. On a parlé il y a 15 jours. Kazaka, Bar, Carite, et plein d'autres auteurs. Avec donc, bien évidemment, des sujets assez intéressants. L'objectif de l'agroalimentaire, c'est pas de nourrir les gens, mais de rétribuer ses actionnaires. Le commerce de la nourriture est réglementé au niveau national, mais se déroule à l'international. Très bien vu quand même par Dédé La Science, et le reste de l'article est quand même du même tonneau. Ça vaut vraiment le coup. Les dessins sont absolument géniaux, puisque il y a un traitement par mot CDM avec un journaliste qui va voir comment on a pu arriver à faire des lasagnes goût cheval. L'explication, je l'adore. Bah, le cheval était planté là, sans doute échappé d'un zoo, et puis il est tombé, et il s'est penché, il est tombé dans le hachoir. Ça arrive.
C'est crédible.
Je vous laisse deviner ce qui arrive au journaliste après. Ne pas manger trop gras, trop sucré.
Il est tombé dans le hachoir.
Oui. Y a aussi un dessin de Patriou qui est. Enfin voilà, c'est Mac humain. C'est la description en fait des différentes types de burgers qu'on peut trouver chez les extraterrestres de. Comment il s'appelle ce de Bad Taste. Mac Afrique, 39 kilos d'eau, se nourrit de riz issu de dons humanitaires, alimentation riche en calcium.
Ah, c'est méchant.
Mac Amérique, 121 kilos de graisse, se nourrit de crème glacée, maïs OGM, soda, burger, poulet frites, poulet frit, pizza, hot dog, sucrerie, huile de palme, alimentation riche en cholestérol. Et le Mac Europe, 72 kilos de minerai de viande, se nourrit de plats surgelés, poulet sous antibiotiques, vache folle, fruits aux légumes traités aux pesticides, poissons mal formés. Alimentation riche en hormones de croissance. C'est assez violent, bien évidemment. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du dessin de l'autre, du reste de l'actualité, dans donc la revue de Carali, psychopathe numéro 252. Ton patron voulait craquer dessus. Il est parti trop tôt.
Si tu nous écoutes.
Lundi,
tu l'auras. Merci.
Ça te changera du Wall Street Journal. voilà.
Ah, je suis content, je vais le lire.
On a quand même dans l'actualité des moments qui sont pas très évidents. Encore une fois, c'est une bio qui est difficile, qui est à faire. Parce que tout simplement, c'est quand même l'un des auteurs qui vraiment m'avait marqué, à savoir Fred. Fred qui nous a quitté lundi dernier, l'un des grands poètes de la bande dessinée. Il est parti quand même à l'âge de 82 ans, mais il était encore en activité, ce qui était plutôt rare. Il est d'origine grecque, né à Paris en 1931. Il découvre pendant la guerre la bande dessinée, à l'époque en entrant dans les locaux confisqués et abandonnés d'Opéra Mundi, l'éditeur SI à Paris, fondé par Paul Winkler, qui étant juif, a eu ses biens spoliés par les Allemands. Il lit donc, lors de ses heures grises, les grands de la bande dessinée américaine. Il le racontait récemment à Florian Ruby sur ActuaBD. On sentait que tout a été abandonné dans l'excitation des albums traînés. Il y avait sûrement des originaux, de Mandrake et autres, mais je ne m'en rendais pas compte, évidemment, à l'époque. Et j'ai emmené plusieurs albums. À 18 ans, il place du dessin dans Ici Paris. Il va rencontrer pendant ses piges Georges Bernier, avant qu'il ne devienne le professeur Choron, et François Cavanna. En septembre 1960, ils fonderont ensemble Harakiri, le journal bête et méchant. Là, on peut parler de censure quand même, ce qui est arrivé après. Il assurera toutes les unes pendant les deux premières années en tant que directeur artistique. Il fera quelques bandes dessinées surréalistes comme le Manu Manu ou Tarsinge, l'homme Zan. Et René Goscinny, rédacteur en chef de Pilote, le fait entrer dans son journal en 65 parce qu'il aime bien la poésie. Et c'est là que Fred va créer le personnage de Philémon. Philémon qui le fera disparaître par la bande de la baignoire, atterrir sur le A, première île qui barre l'océan Atlantique en toutes lettres. Une aventure en 15 tomes, en 15 albums, qui va amener une poésie rare, délicate, rêveuse. Il n'hésitera pas à faire de ses planches de vrais bijoux, jouant avec le 9e art, des fois recto verso, de la page carrément. Vraiment de très très grands moments. Il participera aussi à Pif Gadget en 79. Enfin, l'auto-édition pour son Magic Palace Hotel illustrera le journal de Jules Renard pour le Matin de Paris à la fin des années 80. Fred, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Il a été le premier auteur que j'ai interviewé il y a 18 ans déjà. En 95, il venait de sortir l'histoire du quarterback au basket. Un garçon qui un matin se lève et il est en corbeau. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est son aventure. Et c'est le premier d'une série d'albums, comme le Compteur électrique. Il était simple, poète, amical, charmant. Il me racontait que quand il cherchait une idée, il se coulait un bain et attendait dedans que le bain refroidissait. Et que donc, ses notes de chaudière étaient absolument astronomiques. Et des fois, ses chiffres lui donnaient le tournis. Et en tombant dans ce tournis-là, des fois, il retrouvait une inspiration. Et en 99, il sort un album où il parle de la mort. Toujours avec sa poésie personnelle. L'histoire de la dernière image. Je vous laisse imaginer quand même. C'est fort quand même comme album de bande dessinée. Et à cette époque, ses soucis de santé l'obligent à abandonner son loisir favori, qui était la plongée sous-marine. Il nous quitte alors qu'il vient enfin de publier la toute dernière aventure de Philémon, Le train où vont les choses. Et il s'est éteint le 1er avril dernier. Comme l'écrit ActuaBD, c'était son ultime farce. Voilà, c'est difficile et je pense que vous avez compris que j'avais vraiment une émotion dans ma voix. J'aimerais ressortir la cassette où j'ai cette interview, mais c'était il y a 18 ans, donc à mon avis elle est à moitié effacée, c'est bien dommage. C'était vraiment un bonhomme fabuleux, qui à chaque fois qu'on le voyait à Angoulême, de toute façon, avec sa grande moustache, sa bonhomie et son sourire, juste énorme.
Il faut savoir que cette année, les membres de l'Académie des Grands Prix d'Angoulême, pendant qu'ils délibéraient, ils avaient fait une carte à l'attention de Fred, puisqu'ils savaient qu'il était atteint d'un cancer. Et donc, ils avaient montré justement le dessin. Tout le monde y était allé, tous les membres de l'Académie y étaient allés d'une petite dédicace d'un mot pour Fred. Donc voilà.
Voilà, c'est assez difficile. Donc Fred, je ne dirai qu'une chose. Merci. Voilà. Un autre grand nous a quitté.
Oui, donc cette fois un réalisateur de film, Jesús Franco Manera, dit Jess Franco, cinéaste espagnol, né le 12 mai 1930 à Madrid et mort le 2 avril 2013 à l'âge de 82 ans.
Ah, lui aussi c'est un poète.
Ouais, alors spécialisé dans les films mêlant horreur et érotisme, il avait travaillé sous de nombreux pseudos comme Clifford Brown, Adolf M. Frank, J.P. Johnson, David Kuhn, Jess Frank.
Alors son premier long métrage, il avait achevé en 59, ça s'appelait Tenemos Diez y Ocho Años.
Nous avions 18 ans.
Ouais, en 2011, il est arrivé à une longue série de 185 films.
Ah oui, mais il en tournait plusieurs en même temps, des fois.
Oui, alors il était spécialisé des productions à petit budget, il avait réussi à réunir un entourage dévoué à ses visions, capable de tourner plusieurs films en même temps, même, parfois sans même être au courant. Alors le réalisateur, par exemple, poussait sa fureur créatrice jusqu'à faire tourner des scènes pour un prochain film à ses acteurs sans les avoir prévenus. Ensuite, il rencontre la jeune Lina Romay dans les années 70.
Son Algérie.
Voilà, rencontré après le décès de sa muse Soledad Miranda. Et donc, il lui fait tourner dans beaucoup, beaucoup de films offerts sur l'autel de la création. Dans les années 90, Franco a également fait tourner plusieurs actrices américaines dans certains de ses films, parmi lesquelles Michelle Bauer et Lina Quigley, deux scream queens très populaires aux États-Unis dans les années 80. Il s'est aussi spécialisé dans les films de vampires, les films de prison pour femmes. Donc il y avait quelques titres de films.
Que des films très intellectuels qu'on adore ici.
Voilà, des films très évocateurs, au titre très évocateur, comme Vampiros Lesbos, Les Nuits de Dracula avec Christopher Lee.
Je tiens à signaler que Vampiros Lesbos, la radio avait fait une soirée à la Cinémathèque de Toulouse il y a une dizaine d'années là-dessus, et c'était vraiment un grand souvenir.
Il y avait Vampire Blues, Vampire Junction, Killer Babies versus Dracula, 99 Woman, prison de femmes, camp érotique, des femmes pour le bloc 9, Sadomania, Mujeres, Acolada.
Ah, je crois que 99.
Acoladas. Ah, peut-être. Donc, Jesus Franco, si vous êtes fan de ce réalisateur et si vous voulez en savoir plus, sachez que l'un des spécialistes de l'œuvre de Jesus Franco, le professeur Thibault de la Cinémathèque de Toulouse, que nous avions déjà invité dans cette émission, aura le plaisir de venir nous parler de ce réalisateur, donc Jesus Franco, à l'occasion d'une émission spéciale le 20 avril prochain. Donc le 20 avril, nous recevrons professeur Thibault pour parler de la carrière de ce réalisateur espagnol. Donc nous empresserons de rattraper un peu la filmographie tout à fait appétissante de ce monsieur. De nous quitter.
Malheureusement, ça tombe au taquet. Il y a Carmine Infantino qui aussi est parti, grand auteur quand même du Silver Age américain.
Alors Carmine
très active entre 55 et 70. Si je me souviens.
C'était un gars qui était né en 25 et mort en 2013. Alors il avait commencé sa carrière dans les comics il y a 70 ans quand même. Et alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce type-là, c'est que Carmine Infantino, il avait réussi. C'est lui qui a inventé Black Canary, par exemple, dans les années fin des années 40. La vraie percée d'Infantino, c'est quand on lui a demandé de créer avec Robert Kaniger une nouvelle version de Flash. Alors il réinvente le héros Flash et c'est lui qui crée le policier scientifique Barry Allen, qui fait tellement un choc quand il le crée que ça a été unanimement reconnu comme le signal de la seconde génération des super héros. C'est avec le personnage de Barry Allen que le Silver Age a officiellement commencé. Ensuite, Infantino, il appelait à la rescousse du soldat Batman en 64, puisque justement, tout le monde le trouve ridicule à Batman, et ben c'est lui qui invente le logo de la chauve-souris dans le cercle jaune, qui remet au goût du jour.
Il faut dire qu'à l'époque, Batman, c'était juste des courses-poursuites.
Oui, c'était avec Adam West, voilà.
Voilà, c'est vraiment une merde incroyable.
Et c'est lui aussi.
Bon, quand même.
Et si on vous dit Barbara Gordon, Batgirl, ben c'est aussi Carmine Infantino qui a créé le personnage. Il s'était aussi signalé par les perspectives de fou qu'il mettait dans ses dessins. Il était considéré comme l'un des meilleurs encreurs de sa génération. C'est lui qui avait fait de Flash justement les constructions, les mises en scène avec le héros qui était démultiplié dans la planche pour qu'on comprenne qu'il allait super vite. Dans les années 60, sa carrière prend un autre tournant puisqu'il devient éditeur en chef de DC Comics. C'est lui qui fait débuter Neil Adams, par exemple. Oui. Alors, Carmine Infantino, c'était pas n'importe qui. Voilà, il vient de nous quitter également. Et sur la fin de sa carrière, il a aussi travaillé sur les BD Star Wars.
Voilà. D'accord. Ok. Bah oui. Bah,
donc la source de ces notes-là vient du site comicbox.com. Merci à eux qui feront un dossier spécial pour le prochain numéro.
Bref, ça fait beaucoup de news. C'est vrai qu'on s'était quitté il y a 15 jours et voilà quoi, c'est difficile.
Ça rappelle un peu Space Cowboys de Clint Eastwood quand il arrive et qu'il dit « Hey, comment il va ce vieux schnock ?» « Bah, il est mort. »« Ah, et lui, enfin, je passe lui le bonjour. »« Bah, il est décédé. » Puis chier. Surtout quand avec Tommy Lee Jones. Hey, t'as pas vu comment tout le monde est mort hein, depuis qu'on est, on est parti. Bon, il est en train de caler un jingle.
Ouais, enchaîne. Oui, c'est l'heure du temporaire. De... Et en plus, j'ai oublié de faire le quiz. On avait un quiz des BD censurés ou non. Mais,
On le garde pour la prochaine fois.
Ah, tu peux, ouais, ou alors tu nous dis aujourd'hui, hein. Puis on joue entre nous, hein.
Mais oui.
Ouais, mais on va pas rester que sur des, trucs aussi tristes, c'est pas possible.
Mais quoi. Les BD censurés, c'est pas triste.
Ouais, c'est marrant.
Bon, très bien. On va enchaîner sur les news plus amusantes. Elisabeth II, BAFTA d'honneur.
Mmh, excellent.
Elle a un César d'honneur. Enfin, les Césars anglais d'honneur. Est-ce que vous savez pourquoi?
Moi, oui.
Non, mais...
Bon. Alors, un César
c'est bien,
d'honneur...
tu lis pas mes conducteurs.
Si, non, mais je l'ai vu... Je viens de lui parler, quand même.
Je fais l'auditeur,
c'est une séparation. Sauter en hélicoptère avec James Bond.
Ouais.
Ouais. C'était l'unique fois où elle a accepté d'apparaître dans une œuvre de fiction. C'était jamais arrivé. Elle a juste fait pour l'indation. Pour les Jeux Olympiques, uh-huh. avec une introduction avec Daniel Craig qui attend, alors qu'elle est en train d'écrire juste à pleurer.
C'est la première fois qu'on la voit en vrai en plus dans une.
Oui, c'est la première fois qu'elle joue dans une fiction.
Elle a accepté.
Et juste pour donner un ordre d'idée sur les différences de culture avec la France, c'est que chez nous, alors déjà impensable de voir un président qui tourne dans ce genre de sketch, ouais. Et c'est d'autant plus impensable que l'Académie des votants des Césars lui remettent un prix juste à titre symbolique. Hein. Ouais. Donc voilà, double.
Je vous jure que ce ministre m'a trompé. Ouais. Je ne pensais pas que Cahuzac... Pardon. Ouais. Pardon. Bref. Je vais avoir des emmerdes.
Au revoir.
Voilà. Bref, c'était. Je trouvais que c'était primo. C'est vrai que quand on l'a vu, tout le monde a eu la mâchoire tombée sur le docu. Sauf que évidemment, le commentaire TF1 tout spoilé, c'était juste déplorable.
Mais ça a quand même fait son effet. Enfin, cette vidéo,
c'était énorme.
Attends.
C'était d'une. C'était qui le réalisateur?
Danny Boyle.
Voilà, c'est pas n'importe qui. Et en même temps, Danny Boyle qui tourne un James Bond. Ben déjà, ouais. Ça tue. Mais avec la reine dans son propre rôle, ça c'était juste à tomber. Et les Welsh Gorky.
Il y a les chiens. Il y a tout.
Avec Daniel Craig qui fait au revoir les chiots. C'était juste hilarant. Et c'est vrai que c'était un c'était un moment de ce côté-là assez impressionnant. Un autre film cette fois-ci, mais que l'on avait parlé il y a un mois et demi, à savoir See the Movie.
Alors c'est marrant parce que ça s'appelle pas du tout See the Movie en fait.
Ah.
Si tu te souviens bien du titre de ce film-là, c'est pas du tout See the Movie, ça s'appelle See. Entre parenthèses, je ne le dirai pas. C'est
2999 765 km par seconde.
Voilà.
Donc c'est la vitesse de la lumière, voilà.
À quelques chemins près.
Donc oui, comme toi tu es partie prenante, c'est moi qui vais en parler. Donc ce film là dont on vous a rabâché puisque on est tombé sur le teaser, on est tombé ensuite sur le court-métrage. Donc c'est un film de science-fiction un vaisseau spatial dans le futur en fait qui mêle aussi des faux documents d'archives et des films de space opéra, on peut appeler ça comme ça, sauf que la particularité de ce court-métrage, c'est fait par deux amateurs qui ont réuni un casting d'acteurs britanniques de théâtre et dont la particularité,
ils sont pas tous britanniques, hein,
d'accord, dans l'acteurs de théâtre, et dont la particularité des au niveau visuel est que ce film n'utilise que des jeux de maquettes, de lentilles et de fausses perspectives, donc des trucages à l'ancienne, et pas du tout de CGI. Wow. Et donc, effectivement, ça fait plaisir de voir des lumières rouges ou vertes se refléter vraiment sur le visage des acteurs, sur les peaux, et quand tu vois des infographies d'écran, et ben c'est vraiment... ça apparaît vraiment devant la caméra. Donc ce court-métrage est disponible sur Dailymotion depuis quelques semaines, et en VO... sous-titré français depuis quelques jours, et donc ici nous avons dans notre plateau la personne qui a fait les sous-titres officiels de cette vidéo qui est sur Dailymotion, qui est la Screech. Voilà.
Surtout je vous remercie d'avoir bien voulu participer.
D'avoir relu tes fautes d'orthographe, tu veux dire?
Oui, tout à fait. Et j'espère que du coup tu as pu le voir.
Je l'ai vu en entier, c'est très bien.
Et les dialogues, quand même, c'est de l'argot militaire, des fois, faut s'accrocher quand même, techniquement. Et je remercie énormément de la confiance, quand même, des deux réalisateurs, puisque c'était pour Dailymotion, pour l'avoir en une, c'était il y a 3 semaines, en fait, c'était en plein South by Southwest. Donc voilà, ça fait 2 news sympas.
C'est vrai. C'est sympa.
Et j'ai pas de son! Putain.
Ça, c'est pas sympa, ça.
Là, on va faire une coupure musicale, je pense.
J'ai pas de son, malheureusement, donc ça va être compliqué. Ok, on va revenir.
Chanter.
Non, on va revenir en fait sur le.
Sur les choses sérieuses.
Sur le quiz.
Ah. Moi j'attendais que ça, hein.
Moi aussi. Mais je pensais qu'il avait.
Bah ouais, je sais pas. Mais non, c'est bon.
J'arrive pas à envoyer le son, donc je sais pas ce qui se passe.
Attends, bien, je fais le clavier.
Donc je sais pas ce qui se passe, ok. Merci.
Tu crois que le quiz a commencé? Ça fait partie du quiz ou pas?
Donc, bande dessinée franco-belge, porno ou pas porno, est-ce qu'elle est ou non censurée aux États-Unis? Et je remercie mon conseiller Didier Passamonique. Pornographique.
Ouais, c'est pour ça que tu l'as eu au téléphone, d'accord.
Non, même pas.
Tout le monde attendait
donc,
le quiz.
Vous,
hein. Sur Twitter, ça n'arrête pas.
À qui? Qui?
Allez. Quiz.
Alors, bon. Attention.
Qui? Oui, d'accord, ok.
C'est parti.
Largo Winch, d'après vous, oui ou non censuré?
Non.
Aux États-Unis?
Oui. Aux États-Unis.
Oh bah oui, il couche avec une nana dans chaque épisode.
Et alors?
Exact. Mais ce qui a vraiment, choqué aux États-Unis et qui a posé des problèmes à l'éditeur new-yorkais, c'est une scène de baiser lesbien.
Ah, tu vois, ça t'aime. C'est pour des petits trucs comme ça.
Oui.
Attends, j'attends la rubrique sur 13. Matière de Major Jones, tout ça.
Alors, les Schtroumpfs, d'après vous, est-ce que les Schtroumpfs sont censurés?
Non.
Si.
Bah allez. C'est quoi? C'est le chat parce qu'il est pas habillé?
Non, le premier album des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs noirs. Hein? Le premier album a été censuré aux États-Unis. La couleur, en fait, les albums sont sortis pour dans les années 80 au moment de l'édition, enfin de la diffusion à la télévision du dessin animé d'Anna Barbera. Ils ont pas édité le premier tome. Ils ont hésité jusqu'au bout. Et à la fin, ils ont dit, c'est très simple, on change la couleur. Les Schtroumpfs noirs sont devenus The Purple Smurf, les Purple Smurf.
D'accord.
D'où la célèbre chanson Purple Smurf, Purple Smurf.
Je l'attendais, je me dis,
ouais,
il va pas la faire.
Ouais, si, mais il fallait qu'il la case.
Bon, pourquoi, okay. Bah voilà. Le moine.
Désolé, t'étais pas au courant.
Mais ouais, les gars,
on continue dans les bandes dessinées. On continue dans les bandes dessinées, on va voir si oui ou non elles sont censurées. Le moine fou de Vink. Bah oui, quand même, on voit quand même Epao se balader à poil en train d'apprendre le kung-fu.
Et alors ça, c'est pour le kung-fu, ça, qu'ils ont censuré.
Lucky Luke.
Bah non.
Oui, pour la clope.
Ah non. Oui, ils ont mis le brin de paille. Oui, mais ça, c'était...
Non, c'est... mais il avait supprimé la clope, c'était en France, ça.
Il n'a pas été censuré pour la clope. Il a été censuré pour l'album En remontant le Mississippi à cause d'une représentation des Noirs. Je sais qu'en France, il y a une vignette de Billy the Kid.
Susceptible avec ce sujet, je comprends pas.
Et il y a une vignette de l'album Billy the Kid qui montre Billy the Kid enfant en train de sucer un flingue qui avait été censuré en France, mais pas aux États-Unis. Mais en tout cas, en remontant le Mississippi a posé beaucoup de problèmes à Maurice. Les éditeurs suédois avaient demandé à ce qu'il redessine l'épaisseur des lèvres. Il l'a refusé.
Ah.
Donc voilà. Tintin, d'après vous, est-ce que Tintin ou non est censuré?
Congo.
Tintin au Congo a été publié aux États-Unis dans sa version noir et blanc, qui plus est la plus raciste, hein, celle votre mère patrie la Belgique au lieu de la leçon de mathématiques et tout ça, avec une notice explicative. C'est justement la présence de cette notice explicative qui a été produite lors du procès qui a eu lieu en Belgique, qui a été intenté par un Congolais étudiant en droit. Qui disait que il faudrait que cela soit intégré dans l'album en Belgique, ce qui n'avait pas été suivi. Non, tout Tintin est disponible justement aux États-Unis d'une manière non censurée.
D'accord.
Est-ce que d'après vous, Kid Paddle a été censuré?
Oh bah si c'est tellement énorme, oui, je vais dire oui. Ouais.
À ma connaissance, non.
Bon.
je pense que si on avait dit non, il avait une réponse pour oui et vice versa. Tu as tout prévu.
Spirou, d'après vous, est-ce que ça a été censuré?
Oui.
Ah, oui.
À ma connaissance, non, mais je vous renvoie sur les premières pages du tout dernier album de Spirou, dans les griffes de la vipère, où il est question d'un procès, parce que Spirou est un mauvais exemple pour la jeunesse.
Tu as tout prévu. On peut pas gagner à ce jeu.
Alors, la dernière m'a beaucoup surprise. Barbarella, d'après vous?
Bon, je dis non, tu dis oui.
Ok, oui.
Non.
Alors moi je pensais oui et Didier Passamonique m'a dit non.
J'ai raison.
Sachant que en plus le film était sorti aux États-Unis dans les années 60 et
ouais, non mais à l'époque je veux dire il y avait toute une frange de la bande dessinée qui était complètement émancipée quoi. Donc Barbarella ça passait comme une lettre à la poste.
Le terme est faible. Sachant que Jean-Claude Forest n'a rien gagné sur le film. C'est ce que j'ai appris aussi ce matin. Donc, à ce qui paraît, ça a fait jurisprudence et tout le reste. C'était le quiz. J'aurais aimé avoir Guillaume pour le faire. Ça aurait été amusant.
Mais il l'a fait dans sa voiture, là. Mais tu l'as pas entendu.
Je suis sûr que là, tu vois, dimanche matin, là, il est en train de nous écouter pendant qu'il est en train, sous la douche, d'écouter sur son iPod et il doit être mort de rire.
Allez, on enchaîne.
Paradoxe temporel, ce que tu viens de nous faire, là.
Ah bon? Mais non, pas du tout. On est en podcast.
Nous sommes hier.
Nous sommes hier. Je vous propose quand même une coupure musicale parce que ça fait un peu beaucoup et qu'il est 13h10 minutes et qu'on va pas tarder à avoir les gros costauds.
Ouais, puis je vais me resservir un verre, moi. De Coca.
Avec moi, oui, bon.
Fantas, voilà, trois marques. Amis, c'était trois.
Pierre et Vincent, je veux pas extraire l'album si c'était toi. Là aussi, ça parle de censure.
Je veux pas vivre au conditionnel avec un si obsessionnel. Je veux pas espérer le loto en m'emmerdant à mon boulot. Je veux pas compter sur un coup de peau. Je veux pas qu'on me parle de mode, ça me rend pas vraiment commode. Je veux pas faire la queue au succès comme dans une batterie de poulet. Coup de barre, code barre à l'arrivée. Tu vas me dire que je sais pas ce que je veux, mais au moins je sais ce que je veux pas. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Pour un moins pire, faute de mieux, quitte à choisir. Je veux pas de ce monde aseptisé qu'on nous prépare à la télé, voir ses programmes prédigérés. Je veux pas bouffer du modifié jusque dans le journal télévisé. Je veux pas faire partie d'un courant, quel qu'il soit, je pars en courant. Je veux pas de logo, je veux pas de slogan. Tu vas me dire que je sais pas ce que je veux, mais au moins je sais ce que je veux pas. C'est déjà ça, c'est déjà ça. M'habituer à la guerre, à l'injustice, la misère. Je veux pas devenir un fataliste, me dire que tu n'es dans une liste, comme Dieu le veut, heureux ou triste. Je veux pas chanter cette chanson-là pendant 10 ans dans des galas. Je veux pas voir pousser mes gamins dans un monde qui croule et qui craint. Car ce que je veux, je le sais trop bien. Mais le monde est tellement foireux qu'on est forcé de dire ce qu'on veut pas. On en est là, on en est là. Mais le monde est tellement foireux qu'on est forcé de dire ce qu'on veut pas. On en est là, on en est là. Mais le monde est tellement foireux qu'on est forcé de dire ce qu'on veut pas. On les salins, on les salins.
Spécial dédicace pour toi, MC Gilles. Vous écoutez Radio FMR sur 89.
Mais qu'est-ce qui t'a... Mais arrête de boire. Oh.
Mais non, mais t'étais pas en studio avant le direct. C'était...
Allez, on va enchaîner parce que mine de rien, il reste pas beaucoup de temps dans cette émission. On enchaîne avec une bande dessinée inclassable, mais qu'on peut catégoriser dans le cyberpunk, qui s'appelle Fenich. Et...
C'est pas celle que tu as pris au hasard?
Tout à l'heure. Que tu as ouverte au hasard?
Ah si, tout à fait. Ah. Oula, je vous suivais plus du tout. Alors Fenich.
On est là pour commercialiser la BD aussi. Hein.
Alors, l'histoire, donc c'est...
Remontre-le, vas-y, à nos amis du second écran.
Ah bah tiens, tu vas retrouver la page, alors du coup.
Il y a pas de marque à page.
Alors, Fenice vient d'ailleurs. Sa mèche rebelle lui donne un air pas commode et cache constamment cet œil droit que personne n'a jamais vu. Le gauche, par contre, on le voit bien, il est souligné d'un tatouage d'un phénix, conférence à un propriétaire préscience et immortalité. Véritable électron libre, Fenice semble bien familier des créatures venues du monde des enfers et entretient avec eux des rapports troubles entre provocation et cohabitation froide. Fidèle à ses principes de justice, il erre dans une ville de Rome, dans un temps alternatif et sous un ciel anormalement rouge. Aussi, lorsque le jeune Smoljanovic est en difficulté, l'instinct de Fenice le pousse sur la route de ce dernier, cet enfant de l'aube rouge au destin singulier. Alors voilà, Fenice, guerrier venu d'ailleurs, taciturne et maniant le flingue comme la graine de café, puisqu'il faut savoir aussi que c'est un héros caféinomane, puisque quand il prend une graine de café, ben en fait, il perd tous ses moyens et il est transporté dans un état second. Il faut savoir aussi que cette bande dessinée se réfère constamment à l'enfer de Dante, puisqu'on voit des apparitions des personnages venus du monde des enfers. Donc c'est une bande dessinée dont les auteurs s'appellent Virginio Vona, qui est donc le dessinateur, et Yael, le scénariste. Ils sont co-scénaristes, mais lui, il est auteur de l'histoire. Donc Fenice, donc alors, comme ça se réfère à l'enfer de Dante, donc ce n'est pas le tome 2, mais le tome moins 1, puisque le premier tome, c'était le tome 0. Donc il y a des références, il y a des petits astérisques aussi qui renvoient, ce sont des citations qui renvoient justement vers la mythologie des enfers, les références à Charon, aux Styx, etc. Alors si vous aimez justement les univers un peu avec une expressivité dans le trait à la Bilal, notamment au niveau des voitures, au niveau de la ville en suspension, un univers visuel assez marqué puisqu'il laisse le crayonné apparent, on a des touches de peinture blanche par-dessus qui... On dirait que dès qu'il y a une zone de vide, il fout de la peinture dessus pour que ce soit encore plus âpre, plus bondé, plus chargé, pour faire ressentir cette ville qui est ravagée par les injustices et par le totalitarisme. Donc l'univers visuel est vraiment saisissant, parce qu'il y a des taches de peinture, de la peinture à l'eau, on a des traits qui partent un petit peu dans tous les sens, très expressifs comme ça. Et par contre, le scénario, effectivement, il est très. On a tour à tour des envolées un peu aériennes, où on se dit que c'est vraiment plutôt de la poésie plutôt que des dialogues. Et puis, à un moment donné, quand il y a des affrontements au gunfight, là, on va vraiment dans le dialogue beaucoup plus premier degré. Donc voilà, c'est un univers vraiment saisissant. Deux tomes parus pour l'instant dans la série principale, Fenice. Donc le tome moins un dont je parle aujourd'hui, c'est Smoljanovic et le niveau 4. Et il faut savoir que les deux auteurs aussi ont édité un hors-série au format manga, qui est cette fois-ci en petit format et en noir et blanc. Ça s'appelle Siro le Magnifique, l'onde de choc. Et là, en fait, c'est un hors-série puisqu'on suit plutôt le quotidien d'une journée au basque d'un tueur à gages, qui s'appelle Siro le Magnifique, et qui va justement, pendant les trois quarts de l'album, fondre sur sa proie, puisqu'on l'a payé pour aller assassiner quelqu'un, et à la fin, bah, il rencontre justement Fenice. Et là, on apprend de façon très indirecte beaucoup plus sur le passé de Fenice, justement avec une discussion avec des personnages hauts en couleur, et que je vous dirai pas aujourd'hui de qui il s'agit. Donc voilà, Fenice. Alors le tome 0, il était édité chez, j'ai noté l'éditeur, je ne sais plus, 3DBF je crois.
Associatif Fenice.
Ouais, et l'associatif Fenice plutôt, c'est l'éditeur du numéro en manga et de ce tome moins 1. Donc ils ont changé d'éditeur, ils sont constitués en association. Vous pouvez les voir justement dans les festivals de bande dessinée. Voilà, donc si vous aimez vraiment l'univers à la Druyer, à la Bilal, à la Blame même, pour les armatures, les constructions de villes, vous pouvez.
C'est un trait qui est extrêmement dynamique d'ailleurs.
Hein, ouais, très dynamique, très expressif. Et puis, en plus, les deux auteurs sont très sympas. Donc si vous les voyez dans un stand, dans un festival BD, allez leur dire quelques mots, ça leur fera plaisir. Donc voilà, Fenice, la série, deux tomes dans la série principale, un tome dans la version manga. Voilà, Fenice aux éditions Fenice, dessiné par Virginio Vona et scénarisé par Yael.
Étant donné que le le temps va nous manquer parce que là il est déjà 13h20 mais quand même mine de rien. Et je rappelle que tout à l'heure nous avons une équipe complète de football américain. Ils sont 90, ils pèsent 180 kilos
par
et
jambe.
Ils ne sont pas par jambe et ils ne sont pas commodes et hors protection. On va enchaîner avec le cinéma.
T'as pas le droit de faire ça le matin.
J'essaie de faire le coq.
C'était très bien.
De
changer rien.
Bah ça, ça va, l'encourage pas non plus.
Mais tu étais au maximum de tes capacités, ne le refais plus. Tu feras jamais mieux.
Voilà. Tu ne seras pas The Voice aujourd'hui.
Du sport.
Oui. C'est à toi.
Ok. Souhaitons d'abord bon anniversaire aujourd'hui à Michael Rooker.
Bon anniversaire.
58 ans. Billy Dee Williams.
Ah ah.
Déjà plus vieux, hein.
Ah, Billy Dee Williams. Ans. Ça évoque quelque chose à quelqu'un, ça, Billy Dee Williams?
Allez, Billy Dee Williams.
Allez,
ben, là,
allez.
Comme ça, non.
Un petit filou qui vit dans les nuages.
Allez, allez.
Un noir à moustache.
Ouais.
C'est qui pas a, Mario, comme,
non,
c'est...
qui, pas Mario, il est pas noir,
un
Mario.
Un petit filou,
pas...
noir à moustache.
Un collègue à Han Solo.
Voilà.
C'est pas, je vois pas.
Un collègue à Han Solo. Genre.
Indiana Jones.
Le même genre.
Non.
Han Solo, pas Indiana Jones.
Harrison Ford non plus. R2D2 non plus.
Allez, on enchaîne, allez, on n'aura pas le temps. Allez,
c'est bon. Lando Calrissian.
Et alors là, si je dis Roy Kinnus, qui est un petit peu moins âgé que Billy Dee Williams, un an de moins, 75 ans aujourd'hui.
Roy Kinnus, c'est un ancien joueur de Manchester.
Non, Roy Kinnus, les envahisseurs. C'est ceux qui ont le petit doigt, là. Ok.
Raccourci que j'avais.
Ouais, non, mais c'est des trucs en noir et blanc. Laisse tomber. On est là pour parler d'un film. Alors, c'est The Place Beyond the Pines. Et que j'ai même pas vérifié si c'était encore à l'affiche, mais à mon avis, il doit y être.
Oui, 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 il y est.
Hein, quand même. Parce que bon, dimanche dernier, il était quand même encore dans la salle 2. Alors. Dire que bon, pour un film en VO. C'est pas mal, c'est appréciable.
C'est très rigolo parce que parmi les derniers films que tu as chroniqué, il y avait à chaque fois Eva Mendes. C'est marrant.
Ah ouais, mais c'est vraiment le hasard.
C'est une réflexion que je me suis faite et que je me suis dit, je dois le poser à du sport en direct.
Ouais, mais tu as raison. Alors, pour
Christine, lâche ce flingue, merci.
Calmer l'ardeur des mâles en rut qui seraient tentés d'aller voir ce film uniquement pour la beauté plastique de certaines
Il m'a démasqué.
Voire masculine hein, pour certains autres, mais ça vous regarde.
Faut qu'on change de point pour ce soir.
On peut pas dire que la plastique soit mise en avant dans ce film, d'accord.
Ni en arrière.
Parce que, bon, on peut dire que c'est un film qui est plutôt dans la tendance réaliste du cinéma américain, tendance Sundance Festival, tu vois. Le film parfait pour le Sundance Festival.
Oh,
putain, et là, tout de suite, on se dit, ah putain, non.
Oh non, elle est encore un cheveu crade.
Ouais, et puis en plus... ils passent des heures à gamberger sur des trucs pas possibles et tout. Ils veulent faire du cinéma à la française, alors que bon, c'est des ricains. Non, pas top. Ah ben non, pas du tout, parce que dès l'entrée, tu te dis, ah merde, ça ressemble à quelque chose à fond les manettes. Vu que tu vois dans la scène d'introduction un type de dos avec un blouson de cuir et tout, qui est en train de traverser. Non, il y a pas le scorpion en train de traverser une foule. Tu devines qu'il s'agit d'une fête foraine, un truc comme ça.
Oh, et c'est le même
acteur. Le même mec, il rentre dans le hall comme ça, qui se fait acclamer par la foule, qui se retourne et que tu vois Ryan Gosling dans un blouson rouge, tu dis, oh merde, non, il a pas osé quand même, faut pas le. Non. Eh ben si, il a osé quand même, quoi. Non, sauf que dans ce film, il est cascadeur à moto.
Ah.
Tu vois, c'est ça la grosse différence. Et c'est vrai que la première scène où tu le vois effectuer son truc. C'est pas lui, c'est clair, mais tu dis, ouah, c'est quand même vachement impressionnant. Et c'est vrai que dans ce film, toute la partie moto, on va dire, avec Ryan Gosling ou avec d'autres, même à un certain moment, sont filmés de manière hyper speed. C'est filmé en caméra numérique, c'est hyper saccadé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il t'a vraiment un traitement de l'image qui permet de rendre une poursuite en forêt à un moment donné à travers les arbres et tout, qui donne un côté presque surréaliste à la scène. Parce que les deux véhicules, les deux motos, elles sont vraiment super nettes, alors que tout le reste est pratiquement à la limite du flou, quoi. Tu sais, c'est vraiment un rendu assez magnifique.
Ça me rappelle un film.
Mais sinon, c'est vrai que tu as des parties qui sont traitées non pas à l'américaine, mais qui sont traitées de telle manière à laisser une petite respiration et à mieux comprendre un petit peu la scène et l'implication que peut avoir un dialogue ou un huis clos entre différents personnages. Et c'est là que ça rejoint un petit peu le côté, on va dire, qui pourrait paraître chiant. C'est pour ça que le film d'ailleurs est très long, hein. Le film fait 2h20 quand même, mine de rien. mais tu ne sens pas le temps passer.
C'est,
quoi.
C'est pas vraiment, pire que 2h45 de Claude Atlas, que j'ai vu d'ailleurs sur tes conseils.
Et alors, tu déconseilles?
Et non, non du tout. Non, je vraiment, je pousse les gens à aller le voir s'il y a, il est encore à l'affiche. Et 2h45 passe très bien, c'est très bien monté. Ce qui aurait pu être difficile, mais ça le fait grave.
Et tu vois.
Personnellement,
tu vois.
Voilà.
Alors, le problème de ce film, quoi, c'est que bon, il faut pas trop le raconter parce que sinon, bon, tu déflores quelques trucs et puis bon, ça peut être gênant, justement, au déroulement du film parce que il y a un fil conducteur qui est pas du tout évident au départ, hein, et ça ressemble un petit peu à d'autres films qui mettent en commun des événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais il y a juste un événement qui va faire, qui va entraîner un effet papillon qui va et là c'est vraiment très très bien traité parce que c'est traité dans le temps également et il y a plusieurs degrés de lecture qui permettent justement de rendre le film vachement intéressant quoi. L'histoire de la filiation est très importante dans le film, hein. C'est d'ailleurs elle qui est le prétexte du début du film, le prétexte à ce que va commettre le premier protagoniste, parce qu'il faut dire que Gosling et Bradley Cooper, qu'on va les deux acteurs les plus connus, hein, on va dire les deux gros trucs, en fait, ils n'apparaissent pas en même temps pratiquement, ils ont qu'une scène ensemble. Ok, je vais pas dire laquelle parce que bon, c'est une des scènes clés du film, mais bon, le reste du temps, au départ c'est Gosling et après tu vois Bradley Cooper. Faut dire aussi que le réalisateur Derek Gianfranchi, un type qui avait fait un ou deux films avant, qui avait surtout fait des documentaires, connaît Gosling depuis 2006 et avait déjà tourné un petit film avec lui et avait écrit le film pour Bradley Cooper dans le rôle que Bradley Cooper fait et aller voir Bradley Cooper a dit bon j'en fais le film uniquement si tu fais le film, enfin bon voilà quoi, c'était ça le truc. Il avait écrit le film en fonction de Bradley Cooper, du rôle de Bradley Cooper, tu vois, donc il fallait que ce soit lui qui l'interprète. Puis bon, ils ont discuté 5 heures, ils sont arrivés à un truc. Alors ce qui fait que bon bah le film de ce côté là est vraiment très très intéressant aussi par sa distribution, hein, outre les deux que j'ai citées, celle que tu as citée, Eva Mendes, qui est également un petit peu à l'origine, on va dire, de tout ce qui va se dérouler jusqu'à la fin. Il y a également Mahershala Ali qui joue le rôle du copain de Eva Mendes, on va dire. Ben Mendelsohn, Rose Byrne qui joue le rôle Rose Byrne qu'on a vu dans Damages, hein, la jeune actrice là.
Oui, la brune, oui.
Voilà, la brune qui est la femme de Bradley Cooper, Robert Cloessy en flic, on va dire patron des flics, mais bon, ok. Bruce Greenwood en inspecteur des affaires internes. Excellent, parce qu'il a un rôle qui tient 10 minutes, il est 10 minutes à l'écran, il en fait pas trop, il joue son rôle pile poil, nickel. De ce côté-là, la direction d'acteur du début jusqu'à la fin, hein, et bon, c'est quand même un film qui est, bon, assez choral, on va dire, il y a beaucoup de second rôle, mais qui sont vraiment présents. Là, il a fait vraiment très très fort. Ray Liotta également, qui a un second rôle, mais bon, ok, hein, qui nous fait du Ray Liotta, mais il est quand même un petit peu en dedans, ce qui est pas dédaignable, on va dire. Et surtout les deux petits jeunes qui vont jouer le rôle des fils des deux personnages principaux de la première partie, hein, savoir Ryan Gosling et Bradley Cooper. Et donc 15 ans plus tard, c'est la dernière partie du film, bien c'est les deux fils qui vont se rencontrer. Puis bon, je vous raconte pas ce qui va se passer, bon ça paraît un petit peu logique vu ce qui est arrivé. Mais c'est vraiment très très bien ficelé, c'est ce qui rend le film vraiment très très intéressant. Et les deux acteurs qui interprètent le rôle des deux fils, sont au collège, qui ont 15-16 ans, hein, donc Emory Cohen et Dane DeHaan sont carrément, alors là, excellents. Là, il y a pas à dire vraiment quoi. Emory Cohen, là, ce sont des acteurs qu'on avait vus dans des téléfilms, des petits trucs comme ça, mais je pense que ce sont des gars qui peuvent aller un petit peu loin. Bon, Dane DeHaan, lui, il a une physique, on va dire, un petit peu tourmentée. C'est pour ça qu'on l'a déjà vu dans un épisode où il joue le rôle du coupable de New York Unité Spéciale. Tu vois le genre. Ok, mais pour Emory Cohen, bon, je pense que ça devrait le faire un petit peu mieux, même dans les rôles un petit peu de peut-être de jeune premier, quoi. En tout cas, je conseille vraiment ce film, The Place Beyond the Pines, donc de Derek Gianfranchi, le scénario également de lui en collaboration avec Ben Caccio et Darius Morder. Voilà, le budget raisonnable, 15 millions de dollars hein, pour ce film, mais qui n'a pas marché du tout, quoi. Par contre, qui n'a pas rapporté beaucoup de thunes. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais peut-être que le bouche à oreille fait que il va engranger au fur et à mesure et que il va y avoir comme ça des petites rediffusions et peut-être des passages en salle un petit peu plus tard après la sortie officiel. Bon, comment on a un petit peu vite fait le temps là, quoi.
Tu sais qu'il a, il a une partie assez importante en agenda quand même.
Ah bon,
ça va être, ça va être très short alors.
Non, non, ça va être très très short puisque la semaine prochaine il y a le TGS Wanami quand même.
Non mais il y a les juste les séries parce que ce soir il y a George Takei dans Hawaii 5-0. Hein, d'accord. Il y a également la saison 2 de American Horror Story, c'est ce soir sur Ciné Plus Frisson.
Oh,
demain.
Attends, ils passaient que la première. Ils ont commencé, ils ont entamé les premiers épisodes.
Oui, non, mais non, c'était sur Série Club. Ciné Plus Frisson, ils ont rediffusé la saison 1 et là ils passent l'inédit, donc l'inédit de saison 2 de American Horror Story.
Je suis plus là.
Ok, bon, là, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle, quoi. OCS Choc demain soir, Walking Dead la saison 3. D'accord. Lundi sur TF1 à 22h45, Nurk, une été spéciale saison 14, donc inédite. Et si vous avez regardé l'épisode dernier de la saison 13, lundi dernier, vous avez pu voir le cliffhanger qui est tout simplement saisissant. Alors là, ok, je serai devant mon poste lundi pour regarder cet épisode de saison 14 où il y a quand même quelques guest stars qui vont être intéressants, genre Harold Perrineau.
Ça, il n'y a pas trop d'écart entre les deux.
Mike Tyson, quoi, hein. Ah. Ok. Jake Arns. Oh, bon, bah, ok. On achète. Il n'y a pas de problème, quoi.
Tout le budget dans le premier épisode.
Non, pas en même temps, hein. C'est-à-dire, sur l'ensemble de la saison. Voilà, c'est tout, quoi. Et, au niveau des séries, ouais, c'est
bah, deux séries qui cartonnent, toutes les deux, le jeudi soir, il y en a une sur Canal+, il y en a une sur Arte, il y en a une, c'est l'histoire d'une, ex-avocate d'un président en exercice, absolument génial. Et sur Arte, je l'ai pas encore vu, mais il est question de robots, more humans than humans. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Morgan,
tu me laisses quoi, 30 secondes pour parler du TGS, c'est ça?
Bah écoute, là on a un pack complet et crois-moi, c'est pas des quarterbacks, hein, les mecs.
Mais si tu te retournes pas, tu verras pas que le pack n'est pas arrivé.
Ok, très bien. Donc les amis. C'est très simple. Tous les fans de manga et de jeux vidéo de SF, bien sûr, vous allez pouvoir vous éclater maintenant qu'il fait beau. Donc, le week-end prochain, samedi
et
dimanche,
ça
il fera beau. Le TGS Wanami à La Belge, à Diagora, donc samedi et dimanche prochain, 13 et 14 avril. Donc, vous aurez un peu comme les autres éditions, des concerts, des expos, des cosplays, du karaoké, des salons relaxation. J'ai vu ça. Moi, j'irai pour ça.
Oui, il y a
du massage. J'en ai fait l'année dernière. C'est très, très bien.
Eh bien, écoutez, moi, je vais aller tester. On aura des web-séries. On aura des invités. Alors, cette année, on a trois têtes d'affiche, on va dire, avec Tony Amendola, qu'on connaît de Stargate, entre autres.
Ouais.
Gary Jones également.
Braddock.
Ouais. Warwick Davis, donc on connaît
très
Willow.
Très grand par le talent.
Willow,
c'est lui. Donc on l'a, oui. Voilà, on l'a vu dans Harry Potter notamment. Voilà, donc après des invités plus locaux comme Clémentine et les derniers dinosaures pour un peu de musique. Alors c'est très marrant, ils reprennent des
Clémentine et les derniers
ouais,
dinosaures.
Ouais, ils reprennent des dessins animés des années 80-90 en live. Donc pourquoi pas
les chansons
génériques. Ouais, les chansons de générique version française.
Rien que le titre, ça fait hurler de rire.
Je suis allé voir sur Facebook, c'est magnifique. Si vous aimez Isidore les chats malins, voilà, vous avez le générique en live.
Cool.
Voilà, donc des invités. Marcus, le présentateur, donc maintenant sur No Life de chez Marcus.
Bah, il a toujours été
voilà.
Sur No Life.
Et ouais, non, il était sur Game One.
Non, il est toujours sur No Life.
Ah, il m'énerve. Et David Mourier, qui apparemment va faire une BD qui était donc qui est un des deux du Golden Show et qui va présenter sa BD La Petite Morte. Voilà.
Ouais.
La Petite Morte. Pardon.
La Petite Morte.
Ouais.
Chez Delcourt.
Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc je pense pas avoir le temps d'en parler plus longtemps. Donc c'est. Ok, très bien. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à côté de Toulouse, à La Belge. J'ai perdu ma feuille, mais c'est
Diagora.
À Diagora. Ouais.
Diagora. Donc si vous avez la voiture, c'est juste à côté du cinéma Gaumont de Gaumont IMAX de La Belge. Sinon, vous avez les transports en commun, les bus, les métros est assez loin, mais les bus vous amènent jusque là, qui font les navettes.
Donc pour les infos pratiques, sur place, la journée c'est 10€, deux jours le pass à 15€. Samedi 10h-20h et dimanche 10h-19h. Voilà. Sinon plus d'infos sur diagora-congrès.com ou le site du TGS.
Après, si c'est vrai qu'il y a tous les profils qui peuvent aller là-bas, si vous êtes féru de jeux vidéo, vous avez des finales aussi, des tournois de jeux vidéo, Street Fighter 4, Tekken, des trucs comme ça, c'est au Calibur, qui sont retransmis ensuite sur grand écran. Donc vous pouvez aussi supporter des joueurs ou regarder un peu les techniques des hardcore gamers. Vous avez les cosplays, si vous voulez amener votre appareil photo et que vous êtes féru de cosplayer, eh ben allez-y, vous allez mitrailler comme des malades, vous pouvez essayer plein de choses.
Attention avec leur autorisation.
Ah oui, bien sûr. Après, vous utilisez les salons de massage, vous avez des petites salles avec pas beaucoup de lumière et juste une petite musique derrière qui vous masse les pieds, le dos.
Ah, moi j'y vais.
Ah oui, ça moi je l'ai fait l'année dernière à force de piétiner. Ouais. En plus, les Lena sont super sympas.
Ah.
C'est des cabinets de kiné qui sont.
Qui viennent à l'occasion.
Ouais, qui viennent à l'occasion, exactement. Et puis ils te demandent alors, vous avez vu quoi pendant le salon et tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et vous avez un petit quart d'heure de gratuité. Et si vous voulez y revenir, là vous payez la deuxième fois, mais l'essai est gratuit.
Super, un quart d'heure gratuit.
Donc ouais, à peu près.
Ah, c'est super ça. Ouais, ouais. Je mettrai une fausse moustache et je dirai avec une autre voix comme ça pour essayer d'avoir un deuxième tour gratuit. Je pense que ça va marcher.
Voilà, au Salon International de Toulouse, vendredi soir, il y a une soirée japonaise puisque le Japon est le pays invité. Et Radio FMR a un stand en ce moment, on y écoute.
C'est quoi, la foire internationale de Toulouse?
La foire, ouais.
FMR est là-bas?
Oui, oui.
D'accord.
En direct, oui, oui. Donc c'est pour ça que Monique nous écoutait et l'équipe qui est sur place d'ailleurs, on les salue. Et on est sur la bande son de Seize Movie. Et on va vous laisser là-dessus avec juste une question qui est posée à Sushi, à savoir est-ce que c'est Ayeshide 21, No Huddle ou Ashitae Kickoff que l'on reçoit comme équipe?
Oh, trois mangas qui parlent
de foot américain.
Ouais. Voilà, on a quand même.
Enfin, moi je connaissais que le premier.
C'était quoi le premier?
Ayeshide 21.
Ouais, ça passe sur
Shield,
France.
Shield,
tu peux utiliser le Joker.
Ça passe sur France O d'ailleurs.
Ouais, puis sur manga aussi.
Ouais, qui c'est qu'on reçoit?
Nous recevons les comètes de Montrabé qui évoluent en division 3.
Merci! Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Et ben la semaine prochaine, je pense qu'on sera au TGS.
On sera au TGS, il n'y aura pas d'émission en principe et on enregistrera des sujets sur place pour vous les diffuser ensuite.
Mais n'hésitez pas à nous toper, il n'y aura rien à gagner.
Moi je vais enregistrer un quart d'heure de relaxation.
Oui, vous nous reconnaîtrez, nous aurons les t-shirts supplément week-end sur nous.
Ah, je vais en avoir un?
Bah ouais, on va essayer de t'en passer. Ah.
Merci à tous, ciao, bye bye.
Salut, on n'a pas pu résumer.
Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz sans modulation de fréquence analogique non cryptée sur Toulouse et vous pouvez retrouver nos streams sur www.radio-fmr.net et le podcast du supplément week-end est disponible sur supplementweekend.fr sans accent ni tiré. Merci à vous de votre écoute et de votre complicité.
Que vous ayez, on n'ait pas de caméra dans le studio. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours été opposé. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais enfin, bon, voir ce que était en train de faire Xavier juste à l'instant, ça valait quand même son pesant de cacahuètes.
Il a fait un striptease ou quoi?
Non, 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 tu l'as pas vu. Il nous a fait le scratcher fou. Bon, nos invités sont en train d'arriver tout doucement. C'est bon, il se calme là. On va vous le rappeler, vous écoutez Radio Éphémère à 89.1 MHz. On est diffusé en ce moment au Parc des Expos, donc hein, à la Foire Internationale. Et en attendant, bah, on va patienter en musique.